Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo, à la fois sur notre site internet microrebelle.fr et chez nos amis de PFM 99.9. Donc je vous rappelle que cette émission Micro-Rebelle Hebdo est diffusée chaque semaine, que vous pouvez la retrouver sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement. Alors aujourd'hui, on a réalisé un reportage dont on voudrait vous faire part, au moins en partie. C'est un reportage qui a été réalisé dans le cadre de l'éducation nationale sur la circonscription des écoles primaires et maternelles de Bully, Grenet, Mazingarbe et Losangouel, donc dans le bassin minier, là où est implanté Micro-Rebelle. C'est une animation pédagogique, autrement dit, c'est un moment de formation en direction des enseignantes et des enseignants. Donc là, plus précisément, des enseignantes et enseignants de ce qu'on appelle le cycle 3, autrement dit, typiquement, cours moyen 1, cours moyen 2, et même les 6e. Donc là, c'était des enseignants de CM2, de cours moyen 2e année. Et le thème de cette animation pédagogique, c'était l'éducation à l'égalité filles-garçons à l'école. Donc ça s'est passé début mai, à la médiathèque de Losangouel, autrement dit sur le territoire de cette circonscription. Il y avait une dizaine d'enseignants, des infirmières scolaires, l'inspecteur de la circonscription, une conseillère pédagogique. Et l'inspecteur de la circonscription avait demandé au planning familial du Pas-de-Calais d'assurer cette animation sur cette thématique, l'égalité filles-garçons à l'école. Donc ça se passait notamment à la médiathèque de Losangouel pour pouvoir bénéficier de matériaux tels que les livres, les livres qui sont mis à disposition des habitantes et des habitants, des livres aussi que les enseignants font connaître à leurs élèves, notamment à l'occasion de visites de classe, de déplacements de classe à la médiathèque. Et il y avait en quelque sorte, lors de cette animation, une espèce de regard critique sur les livres et ce que les livres véhiculent en matière de sexisme. Alors ce reportage, il est assez long, puisque on a, dans le cadre de ce reportage, l'équipe de Micro-Rebelle, donc, qui était notamment composée de Mélissa et de Aurélie, on a pu interroger assez longuement les enseignants, l'inspecteur, les militantes du planning familial, la conseillère pédagogique. Donc c'est un reportage qui ne peut pas rentrer complètement dans le cadre de ce Micro-Rebelle Hebdo, pour des raisons de longueur. On va vous en faire écouter quelques extraits durant ce Micro-Rebelle Hebdo. Et si vous souhaitez l'écouter complètement, le podcaster, eh bien, il est disponible sur le site de notre web radio, micro-rebelle.fr. Je vous laisse donc sans tarder avec l'équipe de Micro-Rebelle qui a assuré ce reportage. Donc ça n'est que quelques extraits, mais vous allez voir, c'est tout à fait intéressant et significatif. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur microrebelle.fr. Bienvenue pour ce nouveau reportage que nous avons intitulé « Éducation à l'égalité filles-garçons à l'école ». Ce reportage vous est présenté par Lucien, Aurélie et Mélissa. Ce reportage « Éducation à l'égalité filles-garçons à l'école » a été réalisé en mai 2017 à l'occasion d'une animation pédagogique, donc sur ce même thème, l'égalité filles-garçons à l'école, avec des enseignants de CM2, de cours moyen deuxième année, des enseignants de la circonscription de Grenet, Mazingarbe et Losangouel, à l'initiative de leur inspecteur, M. Lefebvre, et de leur conseillère pédagogique, Mme Brognard. 10 enseignants de CM2 étaient concernés, Et l'inspecteur, monsieur Lefebvre, a souhaité demander au planning familial du Pas-de-Calais, notamment à Louise et à Nadine, hein, Louise en tant que salariée et Nadine en tant que bénévole, d'assurer cette animation sur ce thème, l'éducation à l'égalité, filles-garçons à l'école. Cette animation pédagogique et donc ce reportage ont été réalisés à la médiathèque de Los Angeles, avec notamment un support intéressant, hein, les livres qui étaient disponibles dans cette médiathèque, donc des livres qui s'adressent notamment aux jeunes. Et sur la question du sexisme, il y avait quand même pas mal de choses à noter concernant cette question du sexisme et de l'égalité à l'école. Donc pour situer cette thématique, je vous propose de commencer par donner la parole à Louise, la salariée du planning familial du Pas-de-Calais, qui a assuré cette animation. Bonjour, et peut-être une première question. Pourquoi est-ce que le planning familial qui se préoccupe de santé sexuelle est-il concerné par la lutte contre les inégalités filles-garçons ?
D'accord. Alors, parce que finalement, quand on pose les questions de sexualité avec les jeunes, enfin dans la lutte au fil du temps, on s'est rendu compte que les questions de sexisme apparaissaient forcément, que ce soit à travers alors les questions d'homophobie ou de lesbophobie ou de biphobie, etc. Ou bien que ce soit aussi sur les questions dans la sexualité, quelles places peuvent, enfin, oui, quelles parle de la sexualité les femmes peuvent prendre et les hommes aussi à travers le choix des femmes et des hommes, etc. Donc la question de l'égalité femmes-hommes se posait automatiquement en fait à partir du moment où on abordait la question de la sexualité.
Très bien, alors là tu viens d'évoquer un petit peu le tableau général de cette question des inégalités filles-garçons, hommes-femmes. Plus concrètement, comment ça se traduit, qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'école, puisque c'était la thématique de ton intervention aujourd'hui?
Disons qu'au niveau de l'école, l'école n'est que juste le reflet de la société telle qu'elle est, c'est-à-dire que on voit qu'il y a encore des choses à faire et qui ne sont pas uniquement du fait des enseignants, parce que je pense que souvent on est là à vouloir qu'ils prennent tout en charge, mais après eux-mêmes reproduisent ce qu'eux connaissent de la société. Donc c'est juste un lieu, un espace social sur lequel on va mettre une loupe. C'est-à-dire que oui, on voit que statistiquement, les enseignants vont plus interroger les garçons quand il va s'agir de problèmes que les filles quand il va s'agir de lire quelque chose. On voit que la cour de récré est occupée à 80% par les garçons, que les filles se font avec le reste. On voit aussi que les filles vont plus se situer vers elles vont plus facilement se projeter dans l'idée que elles sont douées en dessin, etc., et qu'elles sont pas très bonnes en maths, et donc tout ça fait que globalement la question de l'égalité elle se pose aussi à l'école, parce que en fait les possibles, les choix, les traitements ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons.
Donc finalement j'écoute ce que tu viens de dire, hein, et l'école finalement c'est ça n'est pas une bulle, hein, l'école c'est aussi le reflet des tensions qu'il y a dans la société. Alors ça veut dire que l'école ne peut que subir cette tension, ou est-ce qu'elle peut avoir un rôle à jouer pour justement un rôle un peu de résistance en quelque sorte?
L'idée c'est justement, sinon on serait pas là si on pensait pas que ça pourrait être un lieu de résistance, je pense, c'est que justement c'est par toutes les petites lorgnettes de la société qu'on essaye d'intervenir, et puis de se dire un professeur qui a une séance va dire à son élève que tout est possible, que fille ou garçon ça peut être la même chose, qui va lui présenter un livre où on présente les filles qui sont des super-héroïnes et un livre pour un garçon où il pleure et que c'est valorisé et qu'en fait il peut exprimer ses émotions et que c'est top et qu'en fait ça c'est hyper important. Je pense que c'est essentiel en fait, et que à partir de là, oui, on est déjà en train de faire de la résistance à travers des tout petites actions, et donc oui, je pense que l'école peut être un lieu de résistance. Après c'est aussi c'est aussi comment les professeurs se positionnent, quels sont leurs possibles aussi dans une société où il y a aussi des gros problèmes au niveau de l'éducation. On va pas non plus, où on coupe les budgets de l'école, où on surcharge les professeurs et on leur dit maintenant encore, c'est à vous de prendre aussi en charge l'égalité filles-garçons. Mais à un moment, si on leur donnait des budgets pour faire intervenir le planning familial et qu'on leur disait, peut-être que c'est pas à vous de tout porter et qu'il y a d'autres gens qui peuvent, parce qu'on parlait de ça aussi tout à l'heure, l'idée de est-ce que c'est le rôle aux professeurs de libérer la parole et de se retrouver avec des grosses problématiques sociales, familiales, dans des écoles. Et moi, personnellement, je le vois que dans nos interventions en planning familial, on arrive dans une école, on repart à un moment. C'est-à-dire que les jeunes, ils portent leur parole, ils ont pu vider quelque chose et après reprendre leur quotidien. Et je pense que ça, c'est aussi important de aussi trouver ces moyens-là et d'arrêter aussi. Alors, je pense que c'est important pour les professeurs d'avoir cette attention-là et justement qu'on les forme pour pas dire « Ah, mais tu fais ça comme une fille. Ah, faut pas pleurer. Non, mais les filles, ça joue pas au foot, etc. » Des choses comme ça. Et de permettre aux filles et aux garçons les mêmes choses, les mêmes possibles et d'avoir les mêmes traitements. Mais en même temps aussi de pouvoir peut-être parfois avoir les moyens de nous faire intervenir. Et c'est pas un truc du genre corporatiste. Hein. Moi, je suis pour que le planning familial, à un moment, disparaisse. Parce que c'est ça l'idéal de société, quand on aura réglé tout, qu'on disparaisse. Mais si on veut changer les choses, en tout cas, plus facilement et que ce soit plus confortable pour tout le monde, je pense que cette idée-là serait bonne.
Dans ce que tu dis, ça signifie que c'est peut-être plus facile pour un intervenant extérieur de pointer un certain nombre de problèmes, et puis y compris peut-être d'amener des solutions, que quand on est au quotidien avec les gamins.
Bah oui, parce que nous, il y a que cet enjeu-là pour lequel on vient, c'est-à-dire qu'on vient sur cette thématique bien précise. On a notre intention, on propose aux professeurs potentiellement de porter ses lunettes spécialement, ce qu'on appelle les lunettes genre, donc l'idée de voir les choses à travers le prisme de l'égalité filles-garçons, et que bien sûr, ils vont devoir garder au quotidien. Mais si on vient une, deux, trois fois par an, qu'il y a des petites piqûres de rappel, etc., ça permet d'avoir cet intervenant extérieur qui apporte quelque chose et qu'on se sente pas seul parfois et démuni face à la situation, et que ce soit aussi un projet d'établissement, parce qu'en fait être tout seul en mode Don Quichotte contre les moulins à vent quand tous les autres collègues peuvent dire des choses qui sont pas du même ordre, en tout cas politiquement, ça peut être compliqué en fait, et qu'à un moment je trouve qu'on de responsabiliser juste une personne sur cette thématique là c'est pas suffisant. C'est un établissement, c'est l'école en général qui doit se retrouver responsabilisée, et là c'est aussi la volonté justement de l'inspecteur qui nous a demandé d'intervenir aujourd'hui.
Justement, au-delà de l'inspecteur qui a fait cette démarche, les freins qui font que ça ne se généralise pas, c'est quoi? C'est des freins politiques, c'est les directions d'école, c'est des freins financiers?
Un peu tout. Donc financièrement, honnêtement, je pense que le premier frein, il serait là, c'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a des écoles qui seraient OK pour qu'on intervienne, qui accepteraient qu'il se passe des choses et qu'ils le font pas parce qu'ils nous disent on n'a pas les moyens. Après, politiquement, oui, le mot genre, dès qu'on le prononce dans certaines écoles, c'est pas possible. C'est pas possible, ça fait siffler les oreilles. Là, non, les parents, ils vont pas vouloir, etc. Je pense que c'est aussi un choix politique des écoles de nous faire intervenir à un moment ou à un autre. Et comme ça a pu l'être là sur Bully Ex Noulette, où on intervient auprès de classes de CM2 et où on voit que clairement, cette question d'égalité filles-garçons, en tout cas dans les classes, elle se pose toujours et qu'il y a énormément de travail. Et nous, on arrive en CM2, ce qui est un peu tard, alors que si on arrivait chaque année, s'il y avait ce que la loi oblige, normalement, les trois séances sur la vie affective et sexuelle, mais qui comprend en fait les questions d'égalité, comme je disais au tout début, si on parle de sexualité, on parle d'égalité. À partir de là, en fait, en CM2, on aurait en tout cas des jeunes, citoyens entre guillemets ou citoyennes, qui pourraient avoir des positions sur l'égalité filles-garçons, et en tout cas faire le choix à un moment de, s'ils ont envie d'être sexiste, mais de savoir que c'est un choix qu'ils font et pas juste de se trouver pris au piège d'une logique sociétale.
Très bien, tu peux nous rappeler ce que tu viens d'évoquer sur ces trois séances? C'est quoi ces trois séances par an, par classe? C'est quoi ce que dit la loi et qui apparemment n'est pas mise en œuvre?
Alors la loi, c'est la loi de 2001, la loi Aubry, qui oblige de la primaire, alors je crois que c'est la primaire ou la maternelle, je ne sais plus exactement, à vérifier. Normalement, je crois que c'est de la primaire au lycée, d'avoir l'obligation chaque année, trois séances sur les questions de vie affective et sexuelle. Qu'elle soit mise en place par des associations extérieures ou bien par des personnes de l'établissement pour que les jeunes puissent se former sur les questions donc de vie affective et sexuelle, mais aussi donc d'égalité, de lutte contre l'homophobie, etc., etc.
Très bien. Alors donc là, tu évoquais les interventions en milieu scolaire. Tu es salarié au planning familial du Pas-de-Calais. Est-ce que le planning, ou toi, enfin, ou le planning de manière générale, met en œuvre d'autres initiatives en direction de professionnels sur les questions de sexualité, d'inégalité filles-garçons, hommes-femmes?
Oui, tout à fait. Donc on est alors sur le littoral, plus sur le projet Femmes exilées. On forme les bénévoles et professionnels de Médecins du Monde et d'autres associations et des militants aussi. On forme aussi les professionnels de l'ENPJJ, donc l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, sur les questions de genre et d'égalité et de mise en place de la mixité au sein de leurs établissements. Et on intervient au-delà de ça, plus particulièrement avec des lieux spécifiques de la protection judiciaire de la jeunesse. Après, on est intervenu auprès donc d'enseignants. Et puis on intervient aussi auprès de travailleurs sociaux. Mercredi dernier, j'étais à Grenay pour faire exactement la même chose, plutôt avec autour d'action parentalité avec des travailleurs sociaux. Et là, on le mettra peut-être en place avec le relais des assistantes maternelles aussi à Grenay.
Et dans ces institutions, c'est plus facile que dans le milieu scolaire? Il y a plus de moyens, il y a moins de réticences politiques?
Non. Non, pas du tout, mais alors après pareil, hein, on est toujours sur une question de c'est une question politique et c'est une prise de position. L'École nationale de la PJJ, en fait, c'est aussi que suite à la tentative d'attentat de jeunes filles l'été dernier avec des couteaux qui étaient radicalisés. Là, ils se sont dit, oh là là, on va avoir des filles dans nos établissements, c'est terrible. Alors, ils se sont dit, peut-être qu'il faut qu'on travaille la mixité au sein de nos établissements et notamment les lieux d'enfermement. Donc, il y a eu des professionnels qui étaient très intéressés par la question pour justement pouvoir travailler sur ça et se dire... comment on va faire pour mettre en place la mixité dans ces lieux-là et tout ça avec une problématique de fond de sexualité, c'est-à-dire, mais si on met des filles et des garçons au même endroit, il va peut-être y avoir de la sexualité, oh là là, ça fait peur. Alors que, par exemple, on ne pense absolument pas que dans un lieu fermé où il n'y a que des garçons, potentiellement, il y a aussi de la sexualité, et de même quand il n'y a que des filles. Et donc, il y a des impensés comme ça qui font que, pendant beaucoup de temps, on ne se pose pas la question, on ne fait pas appel à nous. Puis un jour, on se dit, ah oui, il se passe un truc et bim, les gens font appel à nous. Donc, c'est ce qu'on voit. Et donc là, pareil, ça a été fortuit. C'est que l'inspecteur nous a vu animer à Mazingarbe et qui s'est dit, ah, ça a l'air chouette. On peut peut-être essayer de reproduire ça auprès des enseignants pour qu'ils puissent aussi s'inspirer des méthodes d'éducation populaire. Parce qu'en fait, on voit qu'auprès des professionnels, il y a une petite réticence quand même un peu de ne pas regarder un PowerPoint et prendre 20 minutes, écouter quelqu'un qui a une sainte parole et de mettre après le corps, les esprits en jeu, la parole en jeu, et c'est pas forcément toujours évident pour eux, quoi. Et donc, mais ça fonctionne.
Très bien. Alors justement, puisque tu évoques ce qui s'est passé cet après-midi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça a été abordé? Quelles sont les grandes thématiques qui ont été soulevées? Et puis qu'est-ce que tu en as pensé?
D'accord. Alors, les grandes thématiques abordées aujourd'hui, donc on s'est vraiment concentré autour du médium du livre. Parce que c'est aussi l'apprentissage de la lecture chez les primaires, c'est quelque chose qui est fondamental, et donc on s'est concentré autour des médiums du livre à travers l'analyse d'ouvrages. En fait, c'est qu'à un moment se poser les questions de l'égalité filles-garçons et la littérature jeunesse, comment ça se fait, comment ça se produit, et aussi comment moi je peux reprendre ces outils-là qu'on a proposés cet après-midi avec mes élèves. Donc on a essayé de répondre un peu à ces questions-là. On a essayé un peu de montrer que les livres, il y avait peu de personnages qui n'étaient pas blancs et qui faisaient exactement la même chose que d'autres personnages blancs, parce que tous les enfants qu'on a en face de nous ne sont pas blancs, en fait. Aussi de montrer que les femmes travaillent, alors, ou bien de considérer le travail à la maison comme un vrai travail. De montrer aussi... de repenser les rôles et les catégories à travers les livres, en tout cas.
Alors justement, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Quel constat, pas forcément généraux, mais particulier, tu peux ressortir?
Moi, ce que j'ai constaté après, c'est ce qui est valable sur beaucoup de formations, c'est que c'est souvent les gens intéressés qui ont déjà un peu fait des choses sur la question qui viennent. Donc, en tout cas, il y avait une réelle volonté, en tout cas des personnes présentes, de travailler sur la question. Et puis aussi, qu'il y a une réelle réflexion qui se passe par rapport à leur rôle et leurs enjeux au quotidien. Qu'il y a des choses qui se passent aussi, notamment deux infirmières sur le territoire, infirmières scolaires, qui racontaient que sur la cinquième, quatrième, troisième, avec certaines classes, elle mettait des actions en place. Et donc, c'est de se dire, ah oui, mais en fait, il y a des choses qui bougent sur le territoire, mais on ne le sait pas forcément. Et donc, d'essayer ensemble de partager autour voilà, de ce qui se passait pour eux. Et puis, l'éducation populaire, c'est aussi que, en tant que planning familial, moi-même, j'apprends des choses. Et donc, pour le coup, ça a été vraiment de se poser la question, justement, de ce dont je parlais au début, de l'ouverture de la parole des jeunes dans un lieu qui peut être aussi un lieu ressource et d'échappatoire. Et donc, si je ramène mes problèmes à l'école, est-ce que ça veut dire que je vais encore y être aussi bien épanouie? Est-ce qu'on va me regarder de la même manière? Comment ça se passe pour les professeurs de gérer aussi ces problématiques sociales? Et c'est pour ça que c'était un peu à chaud quand je répondais de, on peut pas leur demander d'être tout puissant aussi et que et en tout cas de valoriser l'importance d'interventions extérieures, alors que ce soit voilà d'associations ou bien d'autres personnels, des psychologues, des infirmières, qui donneraient une autre, enfin, un autre allant à ces questions-là en partie pour la classe. Et après, oui, les supports sur lesquels ils travaillent, je pense que c'est là, en tout cas, on a fourni, enfin, on va fournir des listes d'ouvrages et j'espère qu'ils s'en serviront de support pour pouvoir travailler ces questions-là, ou bien ne pas travailler ces questions-là, mais travailler la lecture tout en parlant d'égalité, parce qu'en fait, on voit très peu cette idée qu'en fait, on peut parler des maths, de la lecture, de la géographie, de plein de choses en parlant d'égalité filles-garçons. C'est-à-dire qu'un problème de mathématiques, c'est si les garçons comptent leurs clous et leurs vis, et que les filles, elles comptent leurs bonbons ou bien leurs bobines de laine, et ben ça donne pas la même chose que si les filles comptent leurs clous, leurs vis, et les garçons leurs bobines de laine, parce que ça donne une autre vision du monde, et que la norme, elle passe aussi à travers le discours, à travers un problème de mathématiques ou bien un bouquin qu'on va lire comme La princesse à la noix, comme l'a cité l'inspecteur. C'était assez drôle. Voilà, bon, c'est sûr que je pense que tout est possible à partir du moment où on s'en donne un peu les moyens, on prend un poil de temps pour réfléchir un peu plus et puis tout ça portera ses fruits, c'est sûr.
Très bien, c'est quoi peut-être cette princesse à la noix?
Alors, la princesse à la noix, si j'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas lue, c'est une méthode pour apprendre à lire pour les enfants. Donc CPCE1, sur une princesse qui ne remplit pas les codes de princesse. Et donc ses parents, à la fin, donc elle fait plein de bêtises, elle porte des baskets, etc. Ce qui serait chouette si la fin du bouquin n'était pas, au lieu de dire trop chouette, mais en fait elle est encore plus qu'une princesse, c'est une personne merveilleuse. Ses parents font le deuil de l'idée qu'elle soit une vraie princesse et que donc en fait c'est pas grave, ils savent qu'elle sera jamais cultivée ni une princesse.
Très bien, je te propose si tu es d'accord de peut-être de prendre un petit peu de hauteur par rapport à, enfin de hauteur entre guillemets, hein, par rapport à cet après-midi. Peut-être avec une première question très générale. Qu'est-ce que tu répondrais à celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème d'inégalité homme-femme dans notre société?
Question piège. Alors, je pense que je pourrais pas leur dire ce que je pense vraiment. Non, je rigole. Je pense que l'idée, ça serait de leur dire un peu de se questionner et de regarder en dehors d'eux-mêmes ou bien d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire que on pourrait citer plein de statistiques sur le fait que les femmes sont payées 25% en moins que les hommes, que en gros, comme je disais tout à l'heure, les garçons occupent 80% de la cour de récré. Et je pense que les gens, ils disent oui, c'est des statistiques, non, ça ne me concerne pas, non, c'est pas moi, c'est un choix personnel. Et à un moment, c'est plutôt de se dire, mais en fait, tout ça, c'est pas personnel, c'est politique, il se passe d'autres choses, et c'est surtout, de quoi, enfin, de quelle société vous rêvez en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Et vous pouvez nier que ces statistiques ils existent, mais toujours est-il que les choses elles avancent pas beaucoup, que pour certains il y a des régressions aussi sur. Enfin, voilà, moi j'ai des exemples sur des jeunes filles qui me demandaient ben voilà, comment on fait pour faire des jumeaux qui n'ont pas du tout d'objectifs d'ambition parce qu'on ne leur demandait pas d'avoir des objectifs d'ambition, qui étaient très bien dans leur rôle de femme et qui disaient non, les hommes, ça ne peut pas cuisiner, ça cuisine mal. Et à un moment de dire, mais ces stéréotypes-là, ils existent, ils sont encore là, ils courent encore les rues, qu'il y a, qu'à chaque fois qu'on va quelque part en fait et qu'on va parler d'égalité, il y a une tension qui se met en place en fait et que. Moi, j'avoue qu'il y a plein de groupes où ça se passe bien, mais on sent que ça crée des tensions dans le groupe parce que c'est une question encore qui est très problématique. Et donc, au-delà des statistiques et des chiffres, il y a l'idée de si c'était vraiment pas une problématique de société, pourquoi ça tendrait autant les gens et pourquoi les gens y mettraient autant la tête dans le sable à propos de l'égalité filles-garçons et qu'est-ce que les gens ont à y perdre en fait. À un moment, c'est de poser la question de à qui profitent les privilèges et que on est quand même dans une société de domination où, en gros, selon la police, 75 000 femmes sont violées tous les ans, 125 000 normalement par rapport aux associations, que c'est dans 90% des cas, que dans 85% c'est des personnes qu'elles connaissent et ce sont des hommes, et qu'à un moment, faut, enfin voilà, je pense que voilà, il faut aussi arrêter de légitimer, en fait, de, ben, j'aime pas ce terme-là, mais pour moi c'est ça, de collaborer avec un système sexiste et patriarcal.
Ouais, je crois que c'est pas inutile de rappeler un petit peu ces différents aspects de la vie finalement. Alors, peut-être une toute dernière question, et qu'est-ce que tu répondrais à celles et ceux qui disent que bon, les différences entre les hommes et les femmes, finalement, c'est des différences naturelles, parce que les hommes et les femmes, bah, sont complémentaires.
Question piège aujourd'hui, vas-y, j'avais pas prévu mon argumentaire direct. Mais alors, je pense pas que c'est parce que j'ai un vagin que je sais mieux faire la vaisselle. Je pense que ça n'a aucun rapport entre mes parties génitales et le fait de savoir bien mettre les mains dans l'eau et nettoyer quelque chose. Je pense que voilà. L'idée d'être complémentaire me pose plutôt problème parce qu'en plus, ça, en fait, ça ignore totalement l'idée que en fait on puisse être femme et naître avec un pénis aussi, donc c'est totalement transphobe. Et aussi c'est un moment dans ce cas-là, ça va forcément se dire que dans un couple lesbien il y aurait un homme et une femme parce qu'il faudrait forcément être complémentaire, donc il y aurait quelqu'un qui jouerait l'homme et quelqu'un qui jouerait la femme. Et je pense que l'idée de la complémentarité pour moi c'est aussi un moyen de d'aussi masquer encore les privilèges et la domination. C'est encore un moyen de dire bon, ben finalement, c'est aussi parce qu'elles le veulent bien et qu'elles le choisissent, alors que toutes les femmes ne font pas forcément le choix parce que elles n'ont pas toutes entendu parler de féminisme. Parce que, enfin, moi, je pense à des dames que j'ai pu avoir au téléphone. Une dame qui me disait un jour, ben là, moi, j'ai envie d'avorter, j'ai déjà une fille, elle a 10 ans, je sors à peine de l'idée de pouvoir faire des trucs avec elle, d'être indépendante. Toutes mes copines me disent, mais non, mais tu veux pas d'un autre enfant, etc. Elle disait, et donc je lui ai dit, mais attendez, c'est normal de vouloir vivre votre vie de femme, etc. Et de vouloir penser pour vous. Et sa parole, ça a été de dire oh, merci, enfin quelqu'un qui me comprend en fait, et quelqu'un qui la renvoie pas à l'idée qu'être une femme, c'est retourner dans les couches, c'est de vouloir forcément faire des enfants, alors que il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, il y a des hommes qui en veulent vraiment beaucoup, qui adorent ça, et donc ça pose aussi ce plan-là, c'est non, pas la complémentarité, j'y crois pas, parce que je pense qu'on peut, enfin les deux, tout est possible en fait, et laissons libre les gens de choisir, laissons libre les gens d'être qui ils ont envie, et ouvrons les possibles, s'il vous plaît.
Très bien, alors, puisque tu parles des femmes que tu as au téléphone, bon, je présume que c'est, enfin, tu le confirmeras dans le cadre de ton activité salariée au planning familial. Alors, on va terminer là-dessus. Que fait le planning familial? Quelles sont ses activités? Est-ce que tu veux nous en parler en quelques mots?
Donc le planning familial, on est une association militante féministe et d'éducation populaire. On travaille sur plusieurs axes. Donc le premier, c'est une permanence conseil. Ça a été le premier rôle du planning familial, c'est d'accueillir les femmes et les écouter. Enfin voilà, aujourd'hui c'est alors pas que les femmes, on accueille aussi toute personne, en tout cas, qui aurait des problématiques autour des questions de sexualité, de santé sexuelle, de contraception, d'infections sexuellement transmissibles, ou juste le besoin à un moment de parler avec quelqu'un, de sentiments qu'on peut avoir et où on a du mal à mettre des mots parce qu'on ressemble pas à toutes les femmes, parce qu'on fait pas la même chose. Et donc, nous on est là pour écouter les femmes, écouter les personnes, que ce soit aussi des personnes de LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans ou bien queer ou bien intersexes aussi. On essaye d'être là pour ces personnes et puis aussi on fait des animations, donc on va voir les gens. Et puis, alors avec des outils ou sans, on discute, on fait des jeux autour des questions aussi d'égalité, de vie affective et sexuelle, de violence, de consentement, que ce soit de tout petit à tout vieux. Non, mais voilà, on est vraiment auprès de tout le monde, que ce soit des parents, des enfants, des professionnels. On fait aussi des formations de professionnels, aussi sur ces questions de genre, de santé, d'égalité, etc. Et puis, on a un axe plaidoyer, donc aussi un moment de vouloir faire respecter la loi, que ce soit la loi sur l'IVG, la loi d'accompagnement et d'accueil des femmes exilées et demandeuses d'asile ou non d'ailleurs, la loi qui devrait s'appliquer quand des femmes sont victimes de viol et qu'elles ne sont pas accueillies dans le commissariat parce que on leur dit qu'il faut être une meilleure femme pour et que monsieur ne sera plus violent, ou bien que c'est parce qu'elles portaient une jupe qu'elles ont été victimes de viol finalement. Et donc on essaye aussi d'avoir une voix politique et militante à ce niveau-là et de regrouper le maximum de personnes avec nous. Donc on fait aussi, on essaye de montrer un maximum de groupes locaux et de mobiliser les personnes. Donc en ce moment, on monte des groupes locaux donc à Grenay, on avait commencé à Méricourt aussi, à Nessoulens, il y en a un à Lens aussi. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, appelez-nous.
Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques moyens de contacter le planning familial du Pas-de-Calais?
Bien sûr, donc on a le Facebook, donc Planning Familial 62, on a une page, notre adresse mail, donc contact, @planningfamilial62.org, planning familial étant tout attaché. Et puis notre numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à laisser un message parce qu'on répond souvent en heure de permanence, parce que parfois on est avec nos sacs, etc. et on est en formation comme cet après-midi. Et donc vous pouvez nous appeler au 03 21 28 43 25.
Merci Louise et bonne continuation pour tous ces combats.
Oui.
Nous sommes donc toujours sur microrebelle.fr dans notre reportage « L'éducation à l'égalité filles-garçons à l'école », un reportage qui vous est notamment présenté par Lucien, Aurélie et Mélissa. Nous sommes à la médiathèque de Los Angeles à l'occasion d'une animation pédagogique. Nous venons d'entendre Loïse qui nous a un petit peu situé le contexte de cette thématique. Eh bien, je vous propose qu'on s'interrompe quelques instants pour une petite pause musicale. Vous savez qu'à Microrebelle, on diffuse de la musique libre et on va aujourd'hui vous faire découvrir Sébastien Jordan Trio, donc un trio musical, qui vous propose Auto Atentado. Je vous retrouve tout à l'heure. Thank you. On est donc sur microrebelle.fr. Je suis avec Aurélie et Mélissa à l'occasion d'une animation pédagogique et en compagnie du planning familial du Pas-de-Calais. Une animation sur le thème « L'éducation à l'égalité filles-garçons à l'école ». Et c'est maintenant Mélissa qui a le micro. Elle est avec Madame Brognard, qui est conseillère pédagogique en arts visuels. C'est elle et l'inspecteur Monsieur Lefebvre qui ont préparé cette animation avec le planning familial. Je vous retrouve tout à l'heure après avoir écouté Mélissa et Madame Brognard.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, je m'appelle Isabelle Brognard et je suis conseillère pédagogique en arts visuels.
Donc vous venez d'assister à un atelier, donc de quoi s'agissait-il ?
Il s'agissait en fait d'une animation pédagogique avec des enseignants de cycle 3 qui ont pour la plus grande partie des élèves allant de 11-12 ans et qui étaient en fait à la recherche un peu de réponses à leurs questionnements autour de l'égalité filles-garçons dans leur classe, dans leur école.
Et qu'est-ce que cet atelier vous a apporté ?
Alors, en tant que formatrice, en fait, puisque j'étais en quelque sorte de l'autre côté de la barrière, et c'était de leur proposer des situations qui leur permettaient d'interroger leur pratique, qui leur permettaient de voir à travers différents exercices originaux, proposé par des partenaires, en l'occurrence Loïse et Nadine, de leur proposer d'avoir un autre regard peut-être sur ce qu'ils vivent au quotidien et de voir comment ils pouvaient s'emparer de ces propositions pour les faire leurs dans leur quotidien justement.
Et en quoi consiste votre travail précisément de formatrice ?
Alors sur ce temps ici de formation, il s'agissait en fait d'accompagner les enseignants dans ces questionnements et de leur proposer des ressources. Alors que ce soit des ressources que l'on va trouver en ligne, donc des exemples de sitographie, de leur proposer aussi un cadrage institutionnel, puisque dans l'éducation nationale, nous avons ce qu'on appelle des programmes et l'égalité filles-garçons s'inscrit dans le cadre d'un enseignement qui s'appelle l'EMC. Donc, et pour cela, donc leur proposer ce cadrage institutionnel, des exemples de sitographie, des ressources en littérature jeunesse, et aussi, puisque c'est ma partie, dans le cadre des images, en termes, par exemple, de références autour d'œuvres artistiques, qui pourraient les aider à compléter un petit peu et à enrichir cette réflexion.
Et avez-vous déjà été professeur ?
Oui, bien sûr, j'étais évidemment, c'est le propre de tout bon formateur, c'est d'avoir été auparavant, donc j'étais institutrice en maternelle, j'étais institutrice en REP et en cycle 3 aussi.
Et est-ce que vous avez pu constater durant vos années de prof et même de formatrice des cas d'inégalité entre les filles et les garçons ?
Bien sûr, sans constater des cas... C'est plus compliqué à dire, je veux dire, il se trouve en fait que depuis quelques années, il faut stigmatiser justement, et il faut pointer du doigt les cas d'inégalité et en faire un objet pédagogique, afin de lutter contre ces inégalités. Je pense que tout enseignant devrait se poser la question à un moment ou à un autre dans sa pratique de dire voilà, sur ce sujet-là, est-ce que je fais bien le job ? Est-ce que j'interroge autant les filles que les garçons, par exemple ? Est-ce que j'ai le même propos au moment de ranger la classe en disant, je sais pas, allez les filles, allons-y, vous serez plus rapides que les garçons à ranger Est-ce que on n'a pas quelquefois la langue qui fourche en disant on va préparer une équipe de foot, comment va-t-on équilibrer pour que chacun ait ses chances? Donc interroger un peu, être plus vigilant qu'on l'a été ces dernières années afin de clarifier cette situation au maximum.
Et pensez-vous que l'école, c'est le lieu propice aux inégalités entre filles et garçons? Est-ce que ça crée ces inégalités ou alors est-ce que c'est la société en dehors de l'école qui l'a créée en fait?
Alors, la question que vous posez, c'est est-ce que l'école est en dehors de la société? Ce que je ne crois pas, donc je pense qu'elle en est le reflet. Parfois, elle en est un petit peu, elle est comme une cocotte minute qui cristallise un petit peu toutes les difficultés. Je pense que comme partout ailleurs, il y a ces éléments-là avec lesquels il faut agir. Je pense qu'il y a eu des grands progrès de fait, en particulier dans les ressources proposées, dans la littérature jeunesse, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire quand on voit par exemple l'orientation scientifique de nos jeunes filles. Hein.
Donc selon vous, c'est surtout les professeurs qui doivent faire attention donc à ce qu'ils font avec leurs élèves, notamment avec donc la littérature. Y avez-vous des autres exemples, de ce qu'il faut qu'ils fassent attention? Donc par exemple, plus de mixité dans les équipes ou des choses comme ça.
Je pense que c'est un regard quotidien. Une vigilance à avoir un peu quotidienne, des axes de travail qu'on va développer, bien sûr la littérature, bien sûr dans un travail par exemple autour de l'image, autour de la publicité. Vous avez vu, nous avons montré un petit film que vous connaissez peut-être, qui a voyagé sur les réseaux sociaux, qui c'était un peu hashtag like a girl, où on avait des exemples comme ça de filles qui s'interrogent un peu sur les préjugés. Donc beaucoup de moyens de parvenir à une réflexion, sans pour autant bien sûr devenir on va dire des combattants extrêmes, mais vraiment d'avoir une vigilance. Et je pense que cette vigilance va nous permettre un peu d'avancer et de faire avancer aussi du coup la société en fait.
Et comment se comportent en général les garçons envers les filles?
Alors tout dépend de l'âge auquel vous pensez. Si vous parlez en maternelle, les enfants, on va dire, sont le moins sujets aux stéréotypes. Par exemple, vous vous souvenez peut-être des coins-jeux dans une classe maternelle où on a vraiment une invitation à participer autant aux garçons qu'aux filles, que ce soit dans des coins aménagés de garage, de construction, de jeux de société, de construction de jeux de construction, de coins cuisine. C'est-à-dire qu'on a vraiment... il n'y a pas d'exemple comme ça. Plus on monte en âge, et plus je pense, avec l'adolescence et la préadolescence, on a un petit peu ces comportements qui se cristallisent un petit peu, disons.
Donc finalement, en maternelle, c'est vraiment le lieu où, enfin, les enfants en maternelle, ils ne se rendent peut-être pas forcément compte de leurs différences. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que les toilettes, ils n'étaient pas séparés en fait. Donc, est-ce que c'est dû à ça?
Alors, vous avez raison, c'est un sujet de grande lutte actuellement. On réinterroge toutes nos pratiques. Et effectivement, les toilettes, alors déjà. Si vous vous souvenez de vos années maternelles, le fait, par exemple, d'aller tous faire pipi en même temps, c'est quand même une grande erreur. Hein. C'est très difficile d'avoir envie de faire pipi à 28. Mais bon, déjà, réinterroger cette pratique-là, ce serait déjà pas mal. Mais réinterroger aussi l'architecture, réinterroger les lieux de vie et d'accueil des enfants. Et vous avez raison, le fait, il y a des pays des pays européens où je pense cette notion-là serait absolument considérée avec épouvante, d'avoir ces toilettes ouvertes comme ceci. Et c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'on a voulu, je pense, sécuriser et dans un esprit de sécurisation extrême. même. On a oublié peut-être des choses élémentaires qui est de l'ordre de préserver l'intime, hein, des enfants même petits. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qu'on réinterroge à l'école maternelle actuellement. Et c'est fort bien.
Oui, car bon, les toilettes, bon, les enfants, ils s'aperçoivent de leurs différences, mais d'à côté, bon, enfin, je vais pas dire que ça les rassemble, mais enfin, est-ce que le fait de se rendre compte de l'un et de l'autre, est-ce que ça va plutôt, je sais pas comment expliquer ça, les inciter à créer des différences entre eux, ou au contraire, ça va leur dire, bon bah, on fait tous enfin dans le même lieu, on se voit tous, bon, c'est pas grave.
Mais vous savez, les différences entre filles et garçons, j'allais dire, sont pas, paradoxalement, c'est pas des différences physiques, hein, c'est pas de l'ordre, j'allais dire, de cette approche physique-là, de dire voilà, c'est plus au, là où elle fait plus de tort, c'est au niveau en fait des comportements. Donc je pense pas que ce soit, moi je prêche plus pour la préservation de l'intimité. C'est pas par là qu'il faut aller si on veut lutter contre ces inégalités. C'est plus dans les comportements entre eux, dans même petits, parfois les interroger sur ce qu'ils viennent de dire ou de faire. Et en ce sens-là, l'école maternelle, comme vous avez pu le voir au niveau des nouveaux programmes, confère à l'enfant vraiment une place prépondérante dans ses apprentissages. Donc c'est vraiment important qu'il puisse s'interroger, être, j'allais dire, maître de ses progrès aussi. Et donc, en ce sens-là, ça peut être intéressant aussi de lui donner la parole, et pas seulement dans les toilettes, on va dire.
Et en maternelle, pensez-vous qu'il s'agit plutôt d'inégalités ou de différences? Parce que c'est plutôt des différences, finalement, pas forcément des inégalités.
Alors c'est à moi de vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez par différence? Quelle différence à quelle différence vous pensez?
Des différences peut-être par exemple au choix des activités vers lesquelles ils vont se diriger, ou pas forcément des inégalités, l'un n'aurait pas le droit de faire comme l'autre, ou des choses comme ça.
En fait, ça n'existe pas, ces différences à l'école maternelle. Vraiment, il y a pas. Elles sont d'abord, elles ne sont pas motivées par les enseignants. Elles sont, au contraire, on essaye vraiment d'offrir une pluralité d'activités sans tenir compte du sexe de l'élève. D'autre part, les enfants entre eux, comme je vous disais. Plus ils sont jeunes et moins, on va dire, ils souffrent de ces inégalités. C'est plus, on va dire, sur ces pré-adolescents, et j'en parlais avec les collègues présents, que l'on peut avoir quelques manifestations. Mais fort heureusement, on voit quand même reculer des comportements très, très caricaturaux. La lutte est encore ouverte, mais il y a plus de choses caricaturales, parce que sans doute il y en a plus au niveau des enseignants.
Et quoi comme chose caricaturale?
Ah, comme je vous disais, par exemple, prenons les cours de PS. Le choix des activités de PS était, je me souviens de ça, était livré aux garçons de la classe qui choisissaient systématiquement des cycles de foot auxquels étaient écartées les filles. Ça peut être, par exemple, ça pouvait être, par exemple, dans les cours de récréation, un espace complètement dévolu aux garçons qui encore une fois occupaient l'espace parce que soi-disant ils avaient plus besoin de courir que les filles qui étaient retranchées sur les côtés ou dans les toilettes d'ailleurs, on n'en sort pas. Ça pouvait être oui, des comportements peut-être de sans qu'on s'en rende compte, peut-être des choses au niveau du rangement, au niveau des les filles qui étaient plus sages, hein, ou simplement, voyez-vous, le terme les filles, hein, les filles et les garçons, d'avoir ces regroupements parfois et souvent même arbitraires.
Mais si on peut plus les appeler ni filles ni garçons, comment faudrait-il les appeler alors?
Quand on est dans une pratique de classe, par exemple, imaginez-vous la situation d'interroger simplement, hein, quand vous dites, par exemple, les filles, vous allez sortir les premières parce que vous êtes les plus lentes. Voilà, c'est dans ce genre de regroupement où faut être vigilant. On est parfois emporté peut-être par ce qui semble être pratique, et en fait, c'est vraiment d'interroger notre propos. Et là, je vous assure qu'il y a beaucoup de collègues, quelquefois, qui aimeraient bien se laver la bouche au savon.
Donc en fait, les enseignants, ils doivent faire un gros travail sur eux-mêmes afin de pas montrer en fait le mauvais exemple aux enfants, pour les enlever de ce sexisme.
Cette représentation, oui. Ben, je pense que comme un enseignant, vous savez, il a une éthique. Hein. On lui demande d'avoir une éthique professionnelle, et cela fait partie de l'éthique professionnelle que l'on se doit d'avoir. Donc, de s'interroger, comme tout à chacun, sur son comportement, et encore plus en étant, j'allais dire, en scène face à des élèves. Donc, d'être attentif à cela, comme ont pu l'être les collègues, par exemple, qui ont souhaité avoir cette animation aujourd'hui, c'est se poser les bonnes questions, s'interroger sur sa pratique et se dire, ben voilà, je vais être vigilant, sans être caricatural, mais je vais être vigilant et proposer des outils, des références qui vont permettre avec mes élèves de nous interroger ensemble, en fait.
Et avez-vous déjà pu travailler avec des adolescents ou juste des plus jeunes ?
Alors, des adolescents, vous savez, maintenant, en classe de cycle 3, ça va jusqu'à la 6e, donc on va toucher des élèves de 12 ans. Je dirais que l'adolescence a reculé un petit peu, hein. Maintenant, ils sont cette préadolescence, je les considère déjà en cycle 3. Ils en ont parfois les caractéristiques, hein. Je les appelle les grands dadés. Hein. Ils sont tous assez immenses, et c'est vrai que oui, d'avoir travaillé avec eux, ça permet aussi de, j'allais dire, de voir comment le monde change, comment leurs moyens de communiquer changent, évoluent, je dirais, voir aussi comment un enseignant face à ses élèves peut être à la fois accompagnant, aidant, en étant aussi un repère pour eux, et puis en étant aussi garant d'une pédagogie qui leur permette d'évoluer, j'allais dire, tout à chacun, et d'évoluer et de s'épanouir quel qu'il soit. Donc je crois que c'est l'enjeu de travailler avec ces adolescents. C'est très important.
Et vous avez pu constater des différences de comportement entre les adolescents et les maternelles, à part le fait qu'ils soient bien sûr plus grands, mais dans le rapport entre filles et garçons?
Alors, en général, ça se fait pas face aux professeurs. Ça se fait surtout en dehors, on va dire en dehors des clous. Ça se fait surtout en dehors, on va dire des cours. Ces manifestations-là sont plutôt entre eux, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être vigilant. Je crois qu'il est de notre devoir en tant qu'adulte de pouvoir donner le ton, de pouvoir intervenir lorsque voilà, on entend, je pense, des insultes proférées à l'égard des filles par les garçons, ou même à l'inverse, des garçons envers des filles. Je sais plus lequel j'ai dit là. Et réciproquement. Donc, je pense que oui, ce sont à la fois les professeurs, mais tout adulte qui se doit de porter cette vigilance et d'être attentif à ce que nos jeunes ne puissent pas colporter ce genre de stéréotypes, en fait.
Et de ce fait, les professeurs doivent porter attention à des comportements malsains qui pourraient se passer entre des individus de sexe opposé, que ce soit des enseignants donc de maternelle comme des enseignants de collège en fait. Mais ils doivent le traiter d'une différente manière.
Tout à fait. On ne va pas s'adresser aux enfants de ces âges différents. Non, bien sûr, on doit tout à fait répondre. C'est une attention de tous. C'est un peu, j'allais dire, si on souhaite avoir une société plus égalitaire et plus équitable en ce qui concerne les possibilités des filles et des garçons, par exemple, d'accéder aux études scientifiques, je pense à ça, de pouvoir avoir les cursus qu'ils puissent choisir en toute liberté, c'est vraiment une vigilance de chacun. Et je pense que Loïse du planning familial nous l'a évoqué, mais on y croit vraiment. C'est à partir de la maternelle avec les enfants les plus jeunes qu'il faut mettre les choses à plat et continuer à être vigilant par rapport à ça, afin que plus ils grandissent et plus ces phénomènes-là s'estompent. Et on est sur la bonne voie, je trouve. On est sur la bonne voie.
Et pourquoi pourquoi vous vous sentez particulièrement concernée par le sujet ?
Parce que mes collègues le sont et que, en tant que formatrice, on se doit d'être un porte-parole des préoccupations qui peuvent nuire au bon fonctionnement de la mise en place de leur pédagogie, qui puissent on se doit d'être à l'écoute et de chercher pour eux quelques solutions, parce qu'il n'y a jamais une seule solution, mais de pouvoir être capable de leur proposer des ressources et des expériences qui ont pu être menées afin qu'ils fassent leur choix. C'est un peu être une courroie de transmission, à la fois un écho des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en classe et en même temps, une espèce de chambre de ressources qui pourrait, dans laquelle ils pourraient puiser en fait.
Et qu'est-ce que vous voudriez dire donc aux jeunes auditeurs qui pourraient éventuellement nous écouter et même aux plus vieux ?
À propos de cet élan autour de l'égalité, je dis, soyons, comme pour tout, soyons vigilants et surtout ne pas croire qu'à un moment ou à un autre, on ne va pas être concerné. La vigilance, c'est de se dire que, se sentir concerné, c'est déjà faire un grand pas vers prendre conscience de la réalité des choses, disons. Voilà, la vigilance.
D'accord, merci beaucoup.